Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Je vois que vous êtes tenaces, surtout les vieux au premier rang, là, ils sont tenaces, hein, ils sont là à l'heure, ils partent à l'heure, ils boivent, c'est très bien. C'est bien, c'est important, hein, vous savez. Il n'est jamais trop tard pour commencer, au contraire. Ne pensez jamais que vous êtes venu trop tard. Rappelez-vous à quel âge Moïse a commencé ? 80 ans. Oui, il a commencé à 80 ans. À 40 ans, il a tout mis par terre. Et à 80 ans, Dieu l'a mis en position de leadership. Il est devenu le plus grand leader de l'Ancien Testament. Donc, ce n'est pas un problème. Ne pensez jamais, quel que soit votre âge, que c'est fini. Non, même si vous avez 20, 30 ou 40 devant vous, eh bien, c'est le temps. Un très, très grand homme de Dieu qui s'appelait Smith Wigglesworth, c'est un Anglais. Il a eu dans son, je ne sais pas pourquoi je dis ça, ça va parler à quelqu'un pour vous encourager. Il a eu dans son ministère une vingtaine de résurrections d'entre les morts. Documentées, hein, ce n'est pas du pili-pili, quelqu'un qui... Non, vraiment documenté. Hein, vraiment documenté. Et cet homme, il a commencé son ministère, il avait 48 ans. 48 ans. Qui a plus de 48 ans ici? Vous voyez, donc vous êtes encore qualifié. Hein, à peine. Et en fait, Dieu peut nous utiliser à n'importe quel moment. Ça, c'est pas le problème. L'important, c'est que tu rentres dans ta destinée. Amen. On partageait ça avec le pasteur Dédé tout à l'heure. Vous savez, souvent, il y a deux travers dans ces enseignements-là. Si vous avez des gens qui vous enseignent que vous êtes brillant, vous êtes ceci, vous êtes cela, le leadership, etc., etc., et qu'ils n'enseignent pas la sanctification, ça va vous faire du mal. Il y a les deux aspects. Vous voyez, rappelez-vous, on construit. On n'est pas en train de jeter une doctrine en disant non, on l'a suffisamment entendu, on ne veut plus en entendre parler. La sanctification du caractère, le nettoyage du caractère, c'est très important avant de pouvoir rentrer dans les dimensions efficaces du leadership. Ça, c'est important. Donc, ne négligez pas. Là, on fait des points focales, c'est-à-dire on se concentre juste sur quelque chose, le leadership. Mais rappelez-vous, on ne peut pas, en tout cas, moi, je refuse de faire ça dans mon ministère. J'essaie toujours d'être équilibré. Je veux parler de la vie de l'esprit, je veux parler de la parole de Dieu, je veux parler du caractère, je veux parler du leadership, je veux parler de la vision, etc. Mais j'essaie toujours de tourner constamment dans ces différentes doctrines. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas que les gens... Il y a des gens, ils sont vie de l'esprit. Uniquement, c'est... Il faut que je ressente, il me faut une parole pour faire un pas, il me faut une parole pour faire deux pas, vous voyez ? D'autres, c'est le contraire, c'est on va lire la parole de Dieu, on va parler la parole de Dieu et uniquement ça. Et ils sont secs parce qu'ils ne sont pas renouvelés, ils ne savent pas ce que c'est que l'onction, vous voyez ? D'autres, ils sont là, ils vous disent, il faut vous sanctifier, ne mentez pas, ne volez pas, ne commettez pas d'adultère, ne pas. Et puis les gens, ils sont comme ça. Et ils ont peur de bouger. Par contre, c'est vrai qu'ils nettoient leur vie. Ils nettoient leur vie relationnelle. Et tout ça, c'est important. Il y en a d'autres, ils vont insister que sur le leadership. Et tout le reste, on ne s'en occupe plus. On va parler vision, on va parler grandeur, on va parler accomplissement, on va parler résultat. Tout ça, c'est d'accord, mais c'est dans le contexte de tout le reste. C'est-à-dire de la parole de Dieu que tu dois connaître et que tu dois parler, que tu dois méditer et pratiquer. La vie du Saint-Esprit, ta relation puissante avec Dieu, tes relations avec les autres et aussi, bien sûr, le leadership et la vision que tu dois construire. Vous voyez ? Donc, il y a cet aspect nettoyage de nos vies. Ça, c'est un temps, la sanctification. En fait, la sanctification, c'est nettoyer. Littéralement, le verbe sanctifier a deux facettes. C'est nettoyer nos vies du péché, mais c'est aussi s'approcher de la gloire de Dieu, c'est-à-dire être influencé par la présence de Dieu. C'est ça la vraie sanctification. La vraie sanctification, c'est pas la privation et puis il n'y a plus rien à faire. Je ne bouge plus. Je suis un bon chrétien, je m'assois sur une chaise d'église, je vais à l'église tout le temps, j'ai ma Bible toutes les 30 secondes, je prie tout le temps, soi-disant, etc., 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 et je ne fais rien de ma vie. C'est pas ça. Non. La vraie sanctification, c'est le nettoyage, mais après, c'est l'influence de sa présence. C'est se rapprocher de Dieu. Vous voyez ? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas heureux. Moi, j'en rencontre plein. Ils ne sont pas heureux, ils sont malheureux. Ils sont là, ils vont dans les églises, ils fréquentent les églises, ils sont fidèles, mais ils sont malheureux. Quand on regarde leur vie, Ils sont chargés de problèmes, chargés de difficultés. Pourquoi ? Parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils ont une destinée. Et certains, quand ils passent des moments difficiles, ils ont ce goût amer de comment ils étaient avant d'être sauvés. Ils disaient, oui, mais avant d'être sauvés, je m'amusais un peu plus. Vous voyez, ils ont un espèce de goût amer, de regret. Un peu comme les Israélites là, qui étaient dans le désert et qui pensaient de temps en temps à ce qu'ils avaient en Égypte. Sauf qu'ils oubliaient qu'ils étaient esclaves. Ils oubliaient qu'ils étaient complètement asservis, vous voyez. Alors le leadership, nous l'avons vu, il y a un leadership divin. Un leadership divin. Nous avons vu qu'il y a tout un tas de lois et il y a des choses qui sont excellentes que l'on doit saisir du caractère de Dieu et qui doivent être infusées en nous, et des lois spirituelles qui s'appliquent à nous si nous voulons devenir de bons leaders. Nous avons vu toutes ces lois rapidement, la loi du couvert, ce qui nous empêche hein, à l'intérieur et à l'extérieur des circonstances ou des choses que nous ne pouvons pas enlever nous-mêmes, que Dieu va amener pour enlever ces couvercles-là. Nous avons vu l'histoire de David et de Saül, nous avons vu la loi de l'influence, Josué, nous avons vu que leadership égale influence. Et que l'influence est quelque chose qui doit grandir et qui peut grandir dans notre leadership, parce que si nous ne faisons pas attention, eh bien parfois nous allons dire des choses, nous pensons que les gens vont nous suivre parce que nous avons un bon cœur, Dieu nous a parlé, alors tout le monde va suivre. Non, pas forcément, il y a du temps pour ça. La loi du processus, Joseph, l'influence c'était Josué, je vous le rappelle. La loi du processus c'est Joseph, ça met du temps pour un leader de grandir. La loi de la navigation, c'est bien de savoir la destination finale, mais encore faut-il en connaître les étapes. Et un bon leader doit être un excellent navigateur. S'il ne l'est pas, il va se planter, il va se trouver devant des défis, et le peuple va se décourager, parce qu'ils vont se dire, il y a toute une montagne ici qu'il faut qu'on enlève, et on a 3 pelles et 2 pioches. Et ce n'est pas possible avec 3 pelles et 2 pioches d'arracher une montagne. Par contre, quand tu as des très très gros bulldozers, et que tu as progresser avec tes machines, eh bien, au bout d'un moment, tu vas réussir à détruire tout ça. La loi de Refuton, celui qu'on écoute, devenir quelqu'un qu'on écoute. Ça, c'est Néhémie. Souvent, les prédicateurs ont cette maladie-là. Les foules. Ils veulent des foules, ils veulent du monde. S'il n'y a pas de monde, ils se sentent mal. Ils viennent quelque part, ils disent au prédicateur qui l'a invité, « Ah, il me faut une foule plus grande que ça. Pourquoi il n'y a pas une plus grande foule ? Pourquoi ? Moi. Pourquoi tu n'as pas mis des affiches partout ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ?» Vous savez, il faut rester dans l'humilité. Il faut être capable même d'aller, même si tu as une église de 10 000 personnes, il faut être capable d'enseigner à 30 personnes. C'est tout. Il faut rester simple. Kenneth Hagin, dans son ministère, il a eu un puissant ministère de prophète et d'enseignant. On voyait des grandes foules vers la fin de sa vie, les 20 dernières années de sa vie. Il réunissait 10, 15 000, 20 000, 30 000 personnes des fois. Mais en fait, on nous disait, à l'école biblique, on nous disait, mais vous savez, ça n'a pas toujours été comme ça dans son ministère. Il enseignait souvent à 200 personnes, 300 personnes, 100 personnes, 50 personnes, mais il était fidèle dans ce qu'il a fait. Donc, ne pensez pas que ces choses-là arriveront du jour au lendemain et ne cherchez pas les foules, histoire de dire, ah, il y avait beaucoup de monde, qu'est-ce que je suis quelqu'un de bien, quel bon leader je suis. Ça, c'est de la stupidité. Numéro 6, la loi de la solide fondation, Samson. Le péché, les erreurs arrivent pour un leader. Mais attention, s'il persévère dans ses erreurs, qu'il ne se corrige pas, et qu'il persévère dans le péché, qu'il ne se corrige pas, qu'il ne se repent pas, alors, tôt ou tard, il détruira sa vie. Son leadership sera détruit, sa destinée sera détruite, et sa vie. Samson, ça a été le cas. La loi du respect, Déborah, une femme au milieu des hommes, qui a réussi à faire son trou parce qu'elle a su quoi faire et comment le faire. Le respect n'est pas une position ou un titre, c'est quelque chose qui se gagne parce que tu as investi chez les gens et les gens sont tellement heureux d'être sous ton leadership qu'ils te respectent au bout d'un moment pour qui tu es et non pas pour ce que tu fais ou ce que tu leur apportes. La loi de l'intuition, un leader doit avoir du flair. Jéthro qui arrive, tout de suite il voit le problème de Moïse, problème de leadership. Il lui donne la solution. Moïse a eu l'humilité de dire, t'as raison, je vais appliquer exactement ce que tu m'as dit de faire. C'est important pour un leader d'être enseignable. Et Moïse était quelqu'un d'exceptionnel de ce côté-là. Alors qu'il aurait pu s'enorgueillir en disant, moi tu sais, Dieu me parle face à face, j'ai pas besoin de tes conseils, j'ai trop, reprends tes affaires et dégage. Non, il n'a pas fait ça. Il a eu l'humilité de dire, vraiment, t'as raison, finalement, je m'en apercevais même pas. Je vous rappelle que vous êtes le seul à vous voir dans la boîte. Les autres vous voient de l'extérieur. La loi du magnétisme, Élie, c'est attirer. Chaque leader a une dose de magnétisme, il faut savoir la faire grandir, il faut savoir bien l'utiliser. Parce que parfois, il y a des leaders qui font de sacrés dégâts, et même des leaders chrétiens qui utilisent leur magnétisme. Il y a plein de gens qui sont autour d'eux, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils les amènent dans des trucs, et c'est une catastrophe, et les gens après sont blessés, et le peuple, il y a beaucoup de gens qui rétrogradent à cause de ça. La loi de la connexion. savoir se connecter. Roboam. Roboam n'a pas su se connecter. Il a fait une grave erreur. Il y a une question à laquelle je vais répondre. Il y a un frère qui m'a écrit, mais ça, il est dit dans la Bible que ça venait de l'Éternel. Quand vous voyez dans l'Ancien Testament, beaucoup de temps comme ça dans l'Ancien Testament, par exemple comme dans Deutéronome 28, qui nous parle de la malédiction de la loi. Voici, j'enverrai contre toi, etc., etc. Il y a un temps en hébreu qui s'appelle un temps permissif. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que vous compreniez que le fait de désobéir à Dieu, ça ouvre des portes. C'est vrai que souvent dans nos traductions, on a l'impression que c'est Dieu qui fait, Dieu qui envoie. Mais ce n'est pas le cas. Dieu n'est pas un Dieu qui envoie la maladie, la destruction ou quoi que ce soit. Dieu n'a pas envoyé le schisme. Dieu n'a pas envoyé les choses contre Roboam. Roboam a ouvert la porte telle qu'elle. S'il s'était connecté avec son peuple et s'était repenti en demandant pardon, à l'époque, on est dans l'Ancien Testament, on ne fait plus ça dans le Nouveau Testament. À l'époque, s'il avait demandé pardon pour le péché de son père et du peuple en général, ce que nous ne faisons plus dans le Nouveau Testament, faisons attention. 2 Chroniques 7,14 n'est plus actuel. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie et cherche ma face, qu'il se détourne de ses péchés, je guérirai son pays, ce n'est pas actuel dans le Nouveau Testament. Ça, c'est une grave erreur qu'on a vue. On a vu des séminaires être construits sur ce verset. Ce n'est pas biblique. Nous ne sommes pas responsables des péchés des autres dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le problème qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient une alliance nationale qui amenait que si les leaders péchaient, la malédiction de la loi tombait sur eux. Voilà, c'est comme ça. Ok ? Il y aurait beaucoup d'enseignements à faire là-dessus parce que beaucoup de gens ont enseigné des choses qui n'étaient pas justes par rapport à ça. Que quelqu'un dise « Amen ». Oh là, c'est samedi matin, vous n'avez pas envie de dire « Amen », vous êtes fatigué apparemment. C'est un jour de congé. Ensuite, la loi de l'entourage proche. Un leader doit construire autour de lui un entourage proche. Ça prend du temps. Il va trouver les bonnes personnes, etc., etc., avec toutes les qualités qu'elles doivent avoir. David a su le faire avant même d'être roi. Il avait Jonathan, puis après il a eu 11 personnes, ensuite il en a eu 300, et après il est plein de gens. Et il avait des proches avec lesquels il a fait d'Israël une nation quand il est devenu roi. La loi de la montée en puissance. Le leader sécure doit savoir repérer les leaders potentiels, les aider là où personne ne croit en eux. Ensuite, la loi de la reproduction. Moïse a fait un petit, et pas du moindre. Il a fait Josué. Josué s'est reproduit en Moïse. Il a été mentoré. Et nous avons vu que ça, c'est quelque chose qui est important. Le leader reproduit qui il est. Il transmet la connaissance qu'il a, mais il reproduit qui il est. Et je vous rappelle une chose, il y a une différence entre faire un disciple et un fils. Un disciple prend la connaissance et essaye de pratiquer la connaissance, mais il ne restera pas dans la maison. Le fils restera dans la maison. Ça, c'est une immense qualité du leadership. Immense qualité du leadership, c'est de faire des fils et non pas de faire des disciples seulement. Le disciple prendra la connaissance, mais quand il aura une opportunité de partir de la maison, il le fera très facilement et ça ne le gênera pas. Et des fois, il le fera extrêmement mal d'ailleurs, parce qu'il ne se sent pas partie de la famille. Quand tu fais un fils, le fils va rester. Quoi qu'il se passe, même s'il y a des conflits, on va se réconcilier après. Même s'il y a des moments difficiles, il sera là. Le disciple, quand il y a des moments difficiles, il prend la connaissance qu'il a et il fout le camp. Que le pasteur Roland dise Amen. Alors, nous en étions, oui, à la loi de la reproduction. La loi du don de soi, Gédéon. On a vu que d'abord, il faut que les gens se donnent au leader, à la personne, croient dans la personne, avant de se donner à la vision. Ça, c'est une erreur. Les relations viennent avant le partage de la vision. Sinon, vous n'y arriverez pas, je vous le garantis. La loi de la victoire, Josias. Être entouré avec un leader qui a une mentalité de défaite, c'est une catastrophe. Les gens qui veulent avancer ne supportent pas d'avoir un leader qui échoue constamment ou qui a une mentalité d'échec, une mentalité négative. Vous devez avoir une mentalité de victoire en disant, voilà, il y a un défi à relever. Ok les gars, on va relever le défi et on va réussir. On va tout mettre en place et on crée cette équipe, on réussit. Et ça, c'est important. Et Josias était comme ça. Josias avait des problèmes. Il est arrivé sur le trône. Il avait 8 ans, le pauvre. Et à 8 ans, vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Vous êtes un gosse. Mais il a cherché Dieu, etc. Il y a eu tout un processus. Et il a lui-même subi des percées. Il a eu des moments où il y a eu des percées qu'il a créées au travers de ses victoires. Et après, il a aidé tout le peuple à vivre des percées. Ça, c'est important aussi. Nous l'avons vu. Ensuite, la loi du mouvement. On a vu Salomon. Salomon qui a mis Israël en pleine accélération. C'est vrai qu'à la fin, il a décéléré Israël. Mais il a fait d'Israël la nation la plus puissante du monde de l'époque. 17, la loi des priorités en ordre. Pierre, là aussi, un leader doit absolument savoir gérer ses priorités. Sinon, il va terminer épuisé, il va vieillir beaucoup plus vite que les autres, et puis finalement, eh bien, son cœur un jour s'arrêtera de battre, il va aller au ciel, gloire à Dieu, mais il n'aura pas complètement achevé sa course. Nous sommes gestionnaires de notre temps et de notre vie et de notre corps. Et il faut faire attention, savoir se gérer, c'est très important. Malheureusement, beaucoup de prédicateurs, quand ils sont dans la spirale du succès, de la spirale de ce que Dieu est en train de faire avec eux, ils ne savent plus gérer leurs priorités souvent. Et ça, c'est un problème. Il faut savoir gérer ses priorités. Si tu es tout le temps épuisé, si tu es tout le temps un million de trucs à faire, si ta tête est prise constamment par un million de trucs, ce n'est pas bon. Il faut que tu dégages les priorités. Et on a vu qu'il va falloir déléguer, et pas n'importe qui, pour que, eh bien, faire les choses principales que nous devons faire. Nous avons des priorités en tant que leader, et le reste, il faut que ce soit des gens qui sont autour de nous, qui fassent le reste du travail. Mais encore faut-il trouver les bonnes personnes. Ça, c'est important. Pas des gens qui vont vous faire des trucs par derrière, et qui vont vous créer du désordre dans votre organisation, votre ministère. Quand on parle d'organisation, je vous rappelle, ça peut être très spirituel, ça peut être une société, ça peut être une association, ça peut être toutes sortes de choses. D'accord? Alors, la loi du sacrifice, on en était là, on va continuer, on va terminer là dans le quart d'heure, 20 minutes qui nous... suivant. Donc, on a vu d'abord que le leader doit abandonner pour aller plus haut. Ça, c'est clair. Beaucoup de gens veulent des positions de leadership parce que finalement, ils pensent que la position de leadership va leur donner des bénéfices. Ils vont avoir une belle bagnole, ils vont avoir une belle maison, ils vont avoir de l'argent, ils vont avoir les honneurs, etc., etc. Et en fait, c'est faux. Quelqu'un qui a cette mentalité-là, il a la mentalité du monde. Et ça, c'est terrible. Dans le leadership, il y a un sacrifice. Et un gros sacrifice. En fait, plus la vision est grande, plus tu vas payer cher. Et si tu n'es pas prêt à payer, laisse tomber. Si tu veux remplir ton ventre, laisse tomber. En tout cas, surtout, n'essaye pas de diriger le peuple de Dieu si tu as ce genre de mentalité. Surtout, ne le fais pas. Parce que Dieu te jugera clairement. Et quand tu seras là-haut, quand on mettra le feu à tes œuvres, il ne restera rien du tout. Tu seras sauvé comme au travers du feu. Parce que Dieu aura vu ta mentalité pourrie. Qui veut qu'une chose, c'est aller pomper chez les gens que tu diriges. Plutôt que de quoi faire, d'investir, d'aider et de payer le prix. Un leader doit payer le prix. Si tu n'es pas prêt à payer le prix, vraiment, ne sois pas un leader. Ou alors, repens-toi sincèrement. Repens-toi sincèrement. Et recommence sur de bonnes bases. Parce que vraiment, on voit des gens comme ça, qui montent des églises, et surtout sur le continent. Vous savez, comme on voit que les églises, les gens s'intéressent au christianisme de plus en plus, on vit ici en Afrique ces 30 dernières années ce qu'on n'a jamais vécu depuis le début de l'histoire de l'humanité sur ce continent. On n'a jamais vu des gens se donner à Christ. Depuis 2000 ans, ce continent était resté vraiment fermé à l'évangile. Le premier Africain qui a été sauvé, c'est qui? Acte 8, le ministre de la reine d'Éthiopie. C'est le premier Africain qui a été sauvé, l'Éthiopien. Mais l'évangile n'est pas descendu, en tout cas dans le sud de l'Afrique. Dans l'Afrique subsaharienne, l'évangile n'est pas descendu. Pourtant, l'Éthiopien était de l'Afrique subsaharienne. L'évangile n'est resté à l'époque qu'en Afrique du Nord. C'est là où on va voir, quand on étudie l'histoire de l'Église, c'est intéressant, il y avait pas mal d'Églises en Afrique du Nord, en Algérie par exemple. En Algérie, en Tunisie, dans ces coins-là. Il y a même eu des conciles, des réunions de responsables à Carthage, par exemple en Tunisie, plusieurs siècles après Jésus. Et là, on est en train de vivre quelque chose de spécial. Le peuple de souche africaine ou qui vit ici en Afrique se réveille et s'est réveillé d'une façon extraordinaire. Mais il y a des opportunistes, frères et sœurs, des opportunistes, des gens qui viennent là parce qu'ils se disent « je vais réunir des gens sous le couvert de l'évangile et je vais faire de l'argent ». Mais c'est connu ça, même à l'extérieur. Ah, je pourrais vous raconter des sacrées histoires sur les églises de l'extérieur. Enfin, des sacrées histoires. Pasteur Roland Voyage, je pense qu'il pourrait en raconter aussi pas mal. Mais des gens qui font des trucs mais inimaginables. Inimaginable. Ils arrivent dans une église que quelqu'un a faite pendant des années, a bossé dur pour ça, et ils vont chercher leur communauté. La communauté congolaise, la communauté rwandaise, la communauté burundaise, etc. Et ils vous sortent des gens comme ça, sous le prétexte de l'ethnisme. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Des trucs affolants qu'on voit. Parce que le gars voit une opportunité. Moi, j'ai vu des gens même faire des cultes en langue nationale dans les pays au Canada, un jour. Il y a un gars qui a fait une église en Kirundi. Dites-moi si ce n'est pas de l'opportunisme et du ratissage d'âme. Mais ces gens-là, comment peuvent-ils être bénis, dites-moi? Ce n'est pas des gens qui veulent payer le prix. C'est simplement des gens qui se disent, si j'ai 60, 70 personnes, 80 personnes, voire une centaine, bah, je vais pouvoir toucher quelque chose et vivre là, quoi. Mais c'est lamentable. Mais c'est, quand on voit des trucs comme ça, on se dit, mais c'est complètement nul. C'est complètement nul. Et franchement, ça, frères et sœurs, il faut être clair. Celui qui veut travailler pour le Seigneur, il va payer cher. Il va se donner. Si tu n'es pas prêt à fonctionner dans cette loi du sacrifice, laisse tomber. Dans les moments difficiles, tu vas fuir. Tu vas tout abandonner. Donc nous avons vu que Moïse a abandonné tout. Noé a abandonné tout. Abraham a abandonné tout. Joseph a tout abandonné aussi. Néhémie, Paul, etc., etc. Et nous avions vu en troisième point, le deuxième c'était Moïse et la loi du sacrifice, troisième point, il n'existe pas de sacrifice gratuit. Ça veut dire qu'il va falloir payer, payer, payer. Eh oui. Et Moïse a pu être utilisé par Dieu parce qu'il y a eu un moment où il a vécu une transformation dans son caractère. Tu ne te donneras pas comme ça, tu ne donneras pas tout ce que tu as au Seigneur sans que Dieu ne soit pas intervenu dans ta vie. C'est-à-dire que tu ne te sois pas mis à disposition de Dieu. Et là, Dieu va s'occuper de toi, mais tu vas te retrouver dans le désert. C'est là où Dieu va travailler ton cœur. Tu vas être seul à seul avec Dieu. Tu vas devoir être honnête aussi avec le Seigneur, avoir soif de Dieu, nous l'avons vu, et être brisé par Dieu. Voilà, numéro 4 maintenant. Quatrième point, on continue. Les leaders efficaces connaissent la valeur du sacrifice. Les leaders efficaces connaissent la valeur du sacrifice. Les leaders efficaces connaissent la valeur du sacrifice. Paul la connaissait, regardez, dans Philippiens 3. Philippiens 3, au verset 7. Il est dit, mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré, Philippiens 3, 7, comme une perte à cause du Christ. Ce qui était pour moi un gain. Paul, c'était quoi son gain? Ce qui aurait pu être son gain, c'était un futur leader politique et religieux. Il avait, comme je vous le disais hier, un chemin tout tracé dans le succès politique et religieux. Il était pharisien, il était d'une bonne famille, il était éduqué à l'école de Gamaliel, une des rares écoles qui préparait justement la future succession des leaders spirituels pharisiens. Et rappelez-vous, à l'époque, les pharisiens tenaient toute la politique, en tout cas en Israël, même s'ils ne pouvaient pas l'exprimer pleinement parce que les Romains étaient les occupants, mais ils avaient un pouvoir terrible sur le peuple, terrible sur le peuple. Ils utilisaient la loi pour dominer le peuple. Leur autorité, entre guillemets, spirituelle, qu'ils s'étaient auto-donnée, entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi, ils s'étaient auto-proclamés les leaders, ayant toute la vérité. Vous savez, la religion, c'est ça. La religion, c'est le projecteur de Dieu que le monde accepte. C'est ça, la religion. En fait, la religion projette une image de Dieu qui est complètement fausse, mais qui est acceptable pour le monde. Et les pharisiens, c'est ce qu'ils faisaient. Ils étaient constamment en train de mettre des joues sur les gens. C'était terrible. Alors, il y a des principes qui sont importants à comprendre à propos de la valeur du sacrifice. D'abord, un leader qui connaît la valeur du sacrifice, il comprend trois choses. La première chose qu'il comprend, donc le leader qui connaît la valeur du sacrifice, il sait que il doit renoncer pour aller plus haut. Il doit renoncer pour aller plus haut. Donc, si tu veux aller plus haut, il va falloir que tu renonces. D'abord, tu sais qu'il y a cette loi où tu dois renoncer. Renoncer à toi-même, renoncer à tes désirs légitimes, renoncer parfois à tes biens que tu es obligé de vendre pour toi-même aller partir en formation, ou etc., etc. Renoncer à beaucoup de choses, renoncer à une popularité. Par exemple, des gens qui sont très populaires dans ce monde, et d'un seul coup, ils se convertissent. Et le pasteur leur dit, tu sais, cette gloire que tu avais, c'était la gloire du monde. Et la personne commence à dire, c'est vrai. Le Seigneur m'a sauvé, le Seigneur m'a délivré. Maintenant, je vais me sanctifier, je vais commencer à marcher avec le Seigneur et je vais découvrir ma nouvelle destinée. Ça, c'est pas facile, surtout les chanteurs, par exemple. Souvent, vous savez, on a un problème, nous les pasteurs, c'est que quand quelqu'un chante très bien, qu'il est très populaire dans le monde et qu'il se convertit, la première erreur que nous faisons en tant que pasteur, c'est que nous le mettons devant à diriger la louange. Et ça, c'est une grave erreur que beaucoup de pasteurs font. Parce qu'on se dit, il y a un don potentiel. Oui, il y a un don potentiel, mais il n'y a pas de caractère potentiel. Et là, tu risques d'avoir des ennuis. Et tu dois tester la personne. Et tu dois lui faire comprendre. Et là, elle doit comprendre qu'elle doit renoncer à tous ces trucs-là. La façon dont elles sont comportées dans le monde. Parce que si elle fait ça sur les strates de l'église, devant le peuple de Dieu, ça peut être dangereux. Dangereux pour elle et dangereux pour le peuple de Dieu, vous voyez. Donc, il faut faire attention à tout cela. Des notoriétés aussi, parfois, que des gens utilisent. Numéro 2, les leaders doivent renoncer pour grandir. Les leaders doivent renoncer pour grandir. Vous voyez, Moïse a su renoncer pour grandir. Quand Jéthro est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté Jéthro. Il a renoncé à ses propres idées. Vous savez, il y a beaucoup de leaders qui n'arrivent pas à comprendre qu'il y a des choses qu'ils font de la mauvaise manière. Et parfois, il y a des personnes qui viennent leur dire, et vous savez, c'est difficile parfois de parler avec un leader. Surtout quand la personne n'est pas enseignable. C'est terrible, ça. Quand vous avez un leader qui n'est pas enseignable, qui pense qu'il connaît tout, il dit, tu lui dis, je pense que tu ferais bien de faire un peu attention à ça et ça. Et le leader est là et dit, mais non, moi je remarque rien de spécial. Fais attention, quand quelqu'un te parle, des fois, je ne te dis pas de tout écouter en tant que leader, mais il y a des moments où tu dois faire attention. Et imaginez-vous, Moïse était capable d'écouter son beau-père. Comme je vous le disais tout à l'heure, il aurait pu le chasser, il aurait pu dire, écoute, tu me casses les pieds, tu n'as rien à faire dans cette affaire-là, tu n'étais pas avec nous quand on a passé les moments difficiles, mais directement. Et en fait, souvent, tu vas être obligé de renoncer à certaines idées. Moi, j'avais des idées des fois sur beaucoup de choses. Oh là 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 là, je me suis aperçu des fois que c'était complètement faux, mais j'ai eu du mal à changer. Parce que moi, j'ai été formé aux États-Unis dans une très bonne école biblique, une des meilleures du monde. Ce n'est pas pour la vanter, mais c'est vraiment, l'école de Kenneth Hagin est une des meilleures écoles bibliques du monde. Et franchement, ils enseignent très bien sur la foi, etc., etc., etc. Mais ils n'ont pas la science infuse. Il y a des côtés qu'ils n'ont pas forcément. Et moi, j'ai été formé d'une certaine façon. Et je faisais les choses d'une certaine façon, pensant que c'était que ça qu'on devait faire. Et quand le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux dans d'autres domaines, j'ai eu du mal. Et des fois, tu dois renoncer. Tu vas dire, non, tes idées sont mauvaises, elles sont fausses. Tu penses des choses, tu ne comprends pas ça. Et heureusement, parce que parfois, le Seigneur nous montre clairement qu'il faut que nous changions. Et là, tu renonces et tu dis non. Apparemment, c'est pas le bon chemin. Je ne réussis pas dans ce domaine-là, c'est qu'il y a quelque chose. Mais souvent, tu dois passer par des moments difficiles. C'est là où tu passes par des moments difficiles. Si tu as un bon cœur, tu te mets devant le Seigneur. Et le Seigneur te met le point, là, dit fais attention à ça, c'est ça ton problème. Et là, tu dois renoncer à tes propres convictions, des fois que tu as faites toi-même, tes propres idées, etc., etc. Des fois même... Tu dois renoncer à être populaire. Des fois, tu vas prendre des décisions qui vont faire grogner les gens que tu diriges. Mais tu sais que tu dois faire ça. Et ça ne va pas t'amener forcément beaucoup de popularité. Parce que tu sens qu'il faut que tu fasses changer le bateau, entre guillemets. On a vu cet aspect de navigation, là, cet aspect de momentum, cet aspect de mouvement. Des fois, tu dois faire changer de direction. L'Église ou l'œuvre de Dieu, parce que tu sais que là, il y a une autre direction, il y a un chemin qui va être meilleur que ce que tu as pris jusqu'à présent. Et parfois, tu ne prends pas une décision populaire, tu sais que ça ne va pas être populaire, mais tu sais que c'est ce que le Seigneur veut, parce que tu sais qu'il y a une nouvelle dimension dans laquelle il veut que tu entres et que tu fasses entrer le peuple de Dieu. Donc parfois, c'est un peu difficile. Numéro 3, les leaders doivent continuer à renoncer pour rester au top niveau. Les leaders doivent continuer à renoncer pour rester au top niveau. Sous-entendu, il ne faut pas penser que vous allez sacrifier certaines choses et que c'est fini. Non. La loi du sacrifice, c'est quelque chose de continuel. Il y a des gens, vous voyez, ils veulent partir en vacances je ne sais combien de semaines par an. Quand tu es leader et que tu es dans une œuvre de Dieu, tu ne peux pas te permettre ça. Tu essaies de prendre à droite, à gauche quelques petites vacances. Mais quand tu veux partir des semaines et des mois comme ça, parce que tu veux aller, entre guillemets, te reposer, soit tu as un problème sérieux, c'est parce que tu ne sais pas gérer ton corps. Et au bout d'un moment, tu sens que tu vas craquer. Mais vous voyez, il y a des choses comme ça. Moi, je connais comme ça des personnes qui veulent servir le Seigneur et que je forme. Et je leur dis non. Je leur dis, les gars, vous êtes impliqués dans le ministère. Ministère égale travail. Ministère, c'est pas faire ce que tu as envie de faire, c'est faire ce qu'il te demande de faire. C'est prendre la responsabilité du peuple de Dieu. Donc continuellement, tu vas être obligé de te sacrifier pour les autres. Si tu ne le fais pas, je vais te dire une chose, tu n'iras pas loin dans le leadership. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que le leader doit apprendre. Numéro 5, cinquième grand principe, on doit perdre quelque chose afin de gagner. Philippiens 3, 13 et 14, Paul disait la chose suivante. « Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, regardez bien, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Philippiens 3, 13 et 14. Notez juste la référence. Vous savez, en tant qu'être humain, c'est difficile parfois de laisser derrière nous certaines choses. Parce qu'on a tendance à s'accrocher à ce qu'on a. Des fois même à des relations qu'on a. Des fois, on a tendance à s'accrocher à quoi ? À de l'argent qu'on gagne régulièrement. Des fois, on a tendance à s'accrocher à nos possessions, à notre entre guillemets, réputation selon le monde. Je ne parle pas selon Dieu, bien évidemment. Et il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir laisser derrière nous. C'est-à-dire qu'il va falloir sortir de notre zone de confort. Bien sûr, on ne va pas perdre notre dignité. Ça, il y a des choses auxquelles tu ne dois jamais renoncer. Ta dignité, ta famille, par exemple. Faire attention à cela. Ta dignité, ta famille, tes valeurs. Tout ça, bien sûr, ce sont des choses qu'il ne faut jamais laisser. Mais il y a des choses que tu devras laisser. Certaines relations que tu devras laisser. Qui ne sont pas bonnes, qui polluent ta vie. Et des fois même des relations fraternelles qui polluent ta vie parce que tu es entouré de gens qui ne sont pas, des gens qui n'ont pas de vision, des gens qui n'inspirent pas. Des fois, c'est des possessions, comme je le disais. Des fois, c'est de la popularité selon ce monde, etc., etc. Peu importe. L'important, c'est que tu saches qu'il y a un prix à payer et que tu veuilles payer ces choses et que tu les laisses derrière toi. Alors, le sacrifice constant peut être développé avec cinq choses. Cinq choses pour développer votre sacrifice constant. Cinq choses que vous devez pratiquer, développer, pour que votre sacrifice soit constant. Numéro un, sachez apprécier les temps et les saisons. On va en parler un peu plus loin, des temps et des saisons. Sachez apprécier les temps et les saisons. Parce qu'il y a des moments où tu vas sérieusement être obligé d'abandonner des choses. D'autres temps tu vas semer, d'autres temps tu vas remuer la terre, entre guillemets. Tu vas bosser comme une bête sans voir la suite. Mais il faut que tu saches apprécier. Et à chaque saison, tu vas apprendre à abandonner certaines choses. En fait, il faut que tu comprennes une chose. Tu es étranger et voyageur sur cette terre. Donc ne t'accroche pas trop aux choses. Et des fois même trop aux gens, il faut le dire. Il faut que tu apprennes à avoir un équilibre dans ce domaine-là. Maintenant, il y a des gens qui disent « Oh, nous ne devons rien posséder dans ce monde parce que de toute façon, le ciel nous attend. » Ça, c'est de la stupidité. Non, la Bible nous parle de laisser un héritage à nos enfants. Et si tu veux être tout le temps dans la pauvreté en tant que leader, tu n'arriveras à rien du tout. Tu deviendras un quémandeur professionnel. À chaque fois que tu auras des besoins, tu vas être obligé d'aller, excusez-moi l'expression, mais te déculoter devant les gens. Et ça, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Donc il y a un équilibre, bien sûr, là-dedans. D'accord ? Donc appréciez les temps et les saisons. Numéro 2, mettez les autres en premier, toujours. Mettez les autres en premier. La recette du chrétien et du leader malheureux, c'est moi, moi et moi seul. Ça, c'est terrible. Les gens qui sont tout le temps rivés sur eux-mêmes, qui ont tout le temps les yeux fixés sur eux-mêmes, qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui ne parlent que d'eux-mêmes. Alors, ces leaders-là, c'est des leaders épouvantables. Et ces chrétiens-là sont des chrétiens malheureux. Que ce soit leader, que ce soit un chrétien qui n'est pas leader, si tu ne mets pas les autres en premier. Il y a des gens, c'est terrible, vous parlez avec eux, ils vous font un livre sur eux-mêmes en parlant. Ils vous racontent toujours, moi ceci, moi cela, moi. Ils ne sont jamais sensibles aux autres, jamais sensibles à la vie des autres. Ils ne veulent jamais investir chez les autres. Toujours quand ils sont dans quelque chose, ce qui les intéresse, c'est mon intérêt. Ça, ce n'est pas la loi du sacrifice. Les leaders qui sont comme ça, mais c'est terrible ces gens-là. Ils font plus de mal que de bien dans leur leadership. C'est absolument terrible. Numéro 3, développer une habitude à donner. Quelqu'un a dit qu'il n'y a rien de plus purificateur que d'apprendre à donner. C'est très purificateur parce que nous libérons quelque chose que nous avons. Ça peut être de l'argent, ça peut être du temps, ça peut être des talents, ça peut être des possessions, d'accord ? Donner, ce n'est pas forcément que de l'argent. C'est vrai, ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi être disponible vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut être des talents, tu lui donnes quelque chose que tu sais faire et dont il a vraiment besoin. Et quand tu fais ça, tu libères quelque chose, tu deviens une source. Un leader doit être une source, il doit savoir se ressourcer, mais ça doit être une source. Un leader ne peut pas être quelqu'un qui prend. Ça, c'est terrible. Je vous assure, moi, quand je vois ces gens-là, ou des gens qui sont beaucoup plus subtils, qui font semblant d'investir, mais l'objectif, c'est de prendre de vous. Ça, par contre, c'est beaucoup plus vicieux comme leadership. Et ça, c'est beaucoup plus tordu et très diabolique. Et je vous dis, ça, on le voit de plus en plus, des gens qui utilisent des techniques de leadership, histoire de montrer aux gens quelque chose. Les gens se focalisent sur ça, sur les résultats, etc., etc. Et finalement, l'objectif du leader, ça sera de prendre tout ce qu'il peut prendre après du peuple. Et s'il y a des gens comme ça, et des gens qui exercent le ministère, c'est triste, mais ça arrive. Numéro 4, apprenez à exprimer votre reconnaissance pour les bénédictions. Soyez reconnaissant, si vous préférez. Soyez reconnaissant. Ça, c'est très important de dire, Seigneur, merci. Où que tu en sois, dans les moments de souffrance, dans les moments où tu as donné le plus, dis-lui, Seigneur, merci. Merci. Apprends à être reconnaissant. Donc, la reconnaissance, avoir une mentalité de reconnaissance. Numéro 5, regardez toujours à l'éternité. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris. Ah, ça a été dur. Regardez toujours à l'éternité. Je dois le dire, là, je pourrais faire une immense parenthèse là-dessus. Ces derniers temps, j'ai fait 19 cultes où j'ai parlé du monde invisible. Parce que les chrétiens ont besoin d'avoir la perspective du monde invisible. Parce que quand tu payes cher, quand tu es en train de payer un prix fort pour construire le royaume de Dieu sur la terre, si tu n'as pas cette perspective de l'éternité qui est vraiment infusée en toi, complètement infusé en toi, eh bien, tu vas avoir du mal. Parce que dans les moments de souffrance, dans les moments difficiles, tu as tendance à regarder le jour présent. Alors que quand tu as régulièrement cette perspective de l'éternité, sans manquer la destinée, parce que vous voyez, c'est l'équilibre encore entre les deux, c'est très important. La perspective de l'éternité. Je vous rappelle que les plus grands hommes de Dieu, en tout cas que moi j'ai pu observer, ils avaient bien la tête dans le ciel, mais ils avaient les pieds sur terre. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'ils comprenaient la dimension de l'éternité. C'était quelque chose qui était vraiment en eux. Mais en même temps, et quand je dis comprendre la dimension de l'éternité, c'est avoir connaître les réalités de ce qui va se passer le jour où tu vas quitter ton corps, où tu vas mourir physiquement. Savoir tout ce que tu vas voir là-haut, c'est extraordinaire. Il y a plein d'enseignements là-dessus. Il y a plein de choses que la parole nous révèle là-dessus. Sur le trône de Dieu, sur le troisième ciel, sur la Jérusalem céleste, etc., etc. C'est formidable, c'est extraordinaire. Ça te donne une perspective et toute la perspective de la souveraineté de Dieu dans la fin des temps. C'est absolument fabuleux ce qu'on va vivre. Absolument fabuleux. C'est passionnant. Et ça te montre ce voyage dans l'éternité. Parce que beaucoup de chrétiens, on leur dit, voilà, tu as la vie éternelle, gloire à Dieu, amen. Et quand ils témoignent, d'accord, mais ça veut dire quoi? Tu me dis que quand tu vas mourir, tu vas aller au ciel. C'est comment le ciel? C'est le ciel. C'est le ciel, quoi. Il y a Dieu. Mais d'accord, mais la Bible en dit beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Tu dois avoir la perspective de l'éternité. Le voyage de l'éternité a commencé le jour où tu es né de nouveau. Maintenant, il faut aussi que tu aies les pieds sur terre, parce que tu as une destinée sur cette terre. Et cette destinée, il faut que tu l'accomplisses. Vous voyez, c'est l'équilibre entre les deux. Quand les gens sont mis dans des églises et on leur dit, voilà, attendez le ciel, tout sera parfait, blablabla, 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 mais sur cette terre, il n'y a que souffrance. Les gens ne vont pas loin avec ça, ils sont très démotivés. Et le contraire aussi, il y a des messages qui nous parlent, il faut régner sur cette terre, il faut, nous sommes des leaders, nous sommes des fils de rois, etc., etc. Oui, d'accord, mais n'oublie pas que c'est temporaire ici. Vous voyez, il y a l'équilibre entre les deux. Il ne faut pas tomber dans un piège ni dans un autre. On est beaucoup tombé dans un piège pendant des années, des siècles, je dirais. On nous a dit, de toute façon, sur la terre, le chrétien doit être pauvre, misérable, dans l'échec, dominé par les autres, etc., etc. De toute façon, nous attendons Jésus qui va venir régner. Oui, d'accord. Ça, c'est la perspective de l'éternité. Et puis, de plus en plus, on entend des enseignements aujourd'hui où, maintenant, c'est comme si le royaume était déjà arrivé et il allait s'installer demain. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Vous voyez, il y a un équilibre entre les deux. Tu peux régner dans cette vie, tu dois dominer, tu dois régner par ta foi, par l'onction de l'esprit, etc. Ça, tout à fait, dans tes circonstances, c'est biblique 100%. Jésus était un vainqueur. Jésus était quelqu'un qui régnait dans ses circonstances. Jésus n'a jamais été vaincu par quoi que ce soit, mais il nous voyait dans l'éternité. Vous voyez, donc, c'est l'équilibre entre les deux, ok? Parce que ça, c'est important. Si tu te donnes que tu es en train de souffrir parce que tu as payé très cher pour en arriver là où tu en es, pense toujours à l'éternité. Parce que le prix est là, mais tu dois aussi voir beaucoup plus loin. 19e loi, la loi du bon timing. 19e loi, la loi du bon timing. La loi du bon timing. Premier principe, le quand Adverbe de temps. Oui, je crois que c'est un adverbe, je ne sais même pas. Le quand est aussi important que le quoi et le où. Où, c'est le lieu, bien sûr. Le quand est aussi important que le quoi et le où. Je vais vous dire, je vais vous donner une clé très simple qui va résumer ça. Être au bon endroit. Être au bon endroit. Notez, être au bon endroit. Faire la bonne chose. La bonne chose selon Dieu. Être au bon endroit. Donc sur ton territoire de destinée. Faire la bonne chose. C'est-à-dire, tu sais que ce que tu fais, c'est exactement d'une ordonnance divine. Et le faire au bon moment. Donc être au bon endroit, à faire la bonne chose, au bon moment, amènera obligatoirement le succès dans ta vie. C'est obligatoire. Tu ne peux pas échouer en tant que leader et même en tant que chrétien si tu fais la bonne chose au bon moment, au bon endroit. Tu ne peux pas échouer. Donc il y a ces trois choses qui sont importantes. C'est ton territoire de destinée, c'est-à-dire être là où Dieu te veut. Ça, c'est très important. Faire ce qu'il te demande, mais le faire au moment où il te demande. Ça, c'est important. Le timing, c'est ce dont nous allons parler dans cette loi. Parce que parfois, tu peux te trouver au bon endroit. Tu peux faire la bonne chose, mais tu peux échouer parce que tu fais trop tôt ou trop tard la bonne chose. Aha. Tu fais trop tôt ou trop tard. Et là, tu échoues. Alors que tu étais au bon endroit à faire la bonne chose, mais tu n'as pas plongé dans l'opportunité prophétique divine. Tu n'as pas plongé dans l'opportunité prophétique divine. Juste au bon moment. Tu as été trop tôt ou tu as été trop tard. Vous savez, il y a des leaders qui disent, ils avaient une super opportunité. Et ils disent, ah oui, mais c'est quelqu'un d'autre qui a acheté ça. Et tu es passé à côté d'un truc que Dieu voulait te donner d'une façon incroyable. Pourquoi ? Parce que tu es passé à côté du temps. Tu étais au bon endroit, tu savais ce qu'il fallait faire, mais tu es passé à côté. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas su détecter le temps, le moment. Et des fois, il y a des leaders qui se précipitent. Ils se précipitent sur quelque chose parce qu'ils disent « Ah, il faut absolument faire ça, tout de suite !» Parfois, c'est bon et parfois, c'est extrêmement mauvais de faire ça. Parce que tu vas te retrouver des fois à devancer le Seigneur. Ne devance jamais Dieu, suis Dieu. Il y a beaucoup de gens qui devancent Dieu. On fait souvent cette erreur-là en leadership. Des fois, on ressent certaines choses, mais il y a le bon moment, il y a le bon timing. Où Dieu va ouvrir des portes de ta destinée d'une façon incroyable. Et ça, il faut vraiment apprendre à détecter le temps. Ça, c'est très, très, très important. Deuxième principe, le bon moment pour agir fait d'une bonne décision une excellente décision. Le bon moment pour agir fait d'une bonne décision une excellente décision. Et si vous voulez connaître la loi du bon timing, étudiez la vie d'Esther. Esther. Donc, le bon moment pour agir fait d'une bonne décision une excellente décision. Donc ça devient vraiment une excellente décision. Tu voulais prendre une bonne décision, mais là, tu as agi au bon moment, paf, tu étais au bon endroit, à faire la bonne chose, et paf, d'un seul coup, Dieu s'est montré d'une façon incroyable. Donc Esther, vous pourrez lire le chapitre 2, le chapitre 4, chapitre 2, chapitre 4, surtout le verset 14, 2, 14, vous pourrez lire. Esther 2, Esther 4, surtout le verset 14 du chapitre 4, Esther 5 et Esther 7 et 8. 7 et 8. Donc 2, 4, surtout le verset 14 dans le chapitre 4, chapitre 5, chapitre 7 et chapitre 8. Il faut comprendre qu'en tant que leader, vous avez un temps où vous avez une marge de manœuvre, c'est-à-dire un temps où il va falloir agir, un temps où vous allez devoir plonger dans l'opportunité prophétique divine. Il y a un temps où vous avez cette marge de manœuvre. Avant, c'est trop tôt, après, c'est trop tard. Et ça, il faut que vous le sachiez en tant que leader. Et bien sûr, agir à ce moment-là va comporter des risques. Parce que dans le leadership, il n'y a pas de risque zéro. Ça n'existe pas. Il y a des moments où tu devras prendre des décisions et tu diras, les gars, maintenant, c'est le temps d'y aller. Il faut qu'on agisse tout de suite. Si tu ne le fais pas, tu passes à côté de ce que Dieu a pour toi. Et très souvent, Dieu va nous redonner des opportunités. Mais des fois, on va attendre 10 ans ou 20 ans. Je me souviens d'un homme de Dieu qui avait été très, très utilisé dans les années 95. Il y a eu un grand mouvement de l'esprit dans une assemblée de Dieu aux États-Unis, en Floride, qui était Pensacola. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, certainement. Et Dieu a vraiment touché des gens. J'ai eu la grâce d'aller une fois à quelques réunions là-bas, 2 ou 3 jours, on y avait été. Et franchement, il y avait une atmosphère divine dans cette église, absolument phénoménale. Et le pasteur disait, c'était il y a 15 ou 20 ans, je suis passé à côté d'une opportunité de réveil. Et j'ai dit à Dieu, je me suis repenti, j'ai dit à Dieu, si jamais tu me redonnes une opportunité comme ça, je la saisirai. Et c'est ce qu'il a fait. Parfois, frères et sœurs, nous loupons des opportunités divines, bêtement. Parce que nous hésitons, parce que nous sommes prudents. Vous savez, dans le leadership, il ne faut pas être monsieur trop prudent. Parce que monsieur trop prudent, il attend d'avoir toutes les sécurités possibles pour faire un pas. Ce n'est pas possible. D'un autre côté, il ne faut pas être monsieur fou non plus. Parce que monsieur fou, il se jette par la fenêtre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un équilibre encore entre les deux. Mais il faut savoir, il faut vraiment faire attention à ça. Dans le leadership, il y a des moments où tu dois plonger sur l'opportunité. Et quand je dis plonger. C'est-à-dire, là, tu enlèves tous les garde-fous et t'amènes tout le monde. Donc, tu réussis, tout le monde va applaudir et t'es tout là-haut, avec ton peuple. Tu échoues. Là, tu vas ramasser les pots cassés, mais il y aura beaucoup de pots cassés que tu dois ramasser. Mais il y a des opportunités. Il y a des moments particuliers dans la vie d'un leader où il doit foncer parce qu'il sait que c'est son heure. Il sait que c'est une heure que Dieu lui a donnée. Et que soit il fonce, et le succès est inévitable. C'est-à-dire que vraiment, il amène les choses que le Seigneur lui a montrées dans une dimension. En fait, souvent, le leadership, c'est des sortes de paliers. Vous êtes là, vous êtes fidèle dans quelque chose. Bon, ça monte, mais c'est un peu, des fois un peu difficile. Vous êtes en train de ramer, entre guillemets, de bosser dans tous les sens. Et les choses sont comme ça. Et Dieu vous donne une opportunité d'un seul coup pour faire quoi? Gravir un échelon. Si tu loupes ça, tu continueras ta montée. Mais avant d'arriver à l'échelon où Dieu voulait te placer très rapidement, eh bien, tu vas mettre encore des années, tu vois. Ça, ce sont des opportunités que nous loupons parfois. Et parce que nous ne sommes pas forcément très malins pour le faire. Vous voyez, par exemple, moi, quand j'organise des séminaires dans mon église, je prie avant. Parce qu'il faut faire vraiment attention. Des fois, vous avez des orateurs, c'est vraiment des gens clés qui vous amènent beaucoup plus haut. Puis des fois, vous avez des orateurs, même les mêmes, que vous pouvez ramener, mais vous n'êtes pas dans les temps divins. Et ça ne donne pas les mêmes résultats. Vous apercevez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, vous voyez. Dans le sens où, bon, c'est bien, il a toujours un bon message, les gens l'apprécient, mais on sent qu'il n'y a pas quelque chose de spécial qui est en train de se produire, vous voyez. Et ça c'est important. Ça, je le dis, par exemple, en tant que leader, quand on est pasteur, il faut faire gaffe. Il y a des gens, vous savez, ils organisent tout le temps des séminaires, des machins, des trucs, des bidules, blablabla. Ok, qu'est-ce que le Seigneur veut là-dedans? Y a-t-il pas des opportunités divines dans lesquelles, où d'un seul coup, Dieu veut amener le peuple beaucoup plus haut? Oui, il y en a. Il faut que tu les détectes. Sinon, tu vas te fatiguer. Sinon, tu vas monter tout doucement. Oui, tu vas monter, mais tu vas monter tout doucement. Et il y a des moments clés. Il y a des moments très particuliers où Dieu va amener une révélation nouvelle, fraîche, dans les églises, particulière, à des moments clés. Soit toi, tu vas les recevoir et tu devras plonger dans cette opportunité prophétique que Dieu te donne. Ou alors, au travers de quelqu'un, tu vas amener ton peuple beaucoup plus loin. Vous voyez? Donc ça c'est des choses qu'un leader doit ressentir. Pour l'achat de locaux, l'achat de bâtiments, tout ça, c'est pareil. Il nous faut une sensibilité gigantesque. Parce que on peut avoir 1 million d'opportunités devant nous. Ou on peut avoir 0 opportunité parce qu'on n'en crée aucune d'ailleurs. Mais il faut savoir la bonne opportunité. Il faut savoir exactement. Moi, par exemple, pour l'achat de notre bâtiment, j'étais dessus depuis 7 ans. Et 3 fois, j'ai essayé de créer l'opportunité et ça n'a pas marché. Et heureusement d'ailleurs, parce que j'aurais eu des ennuis aujourd'hui. Aïe, je me serais retrouvé dans des histoires gigantesques. Mais il y a eu un moment, j'ai su que c'était le bon moment. On a plongé, on a fait tout ce qu'on devait faire et Dieu nous a rencontrés. Au milieu de notre foi, et piouf, ça s'est fait. Et franchement, les gens ont été super étonnés. Ils se sont dit, mais comment est-ce que vous avez fait au bout de 10 ans de pouvoir acquérir un tel bâtiment? Dans les conditions dans lesquelles nous sommes. Vous voyez? Et vraiment, c'était le temps de Dieu. Alors qu'avant, je savais que c'était ça qu'on devait acheter. 7 ans. Je tournais autour depuis 7 ans. Il y avait beaucoup de mes chrétiens qui me disaient, mais comment est-ce que tu as vu ça, pasteur? Moi, j'ai jamais vu ce bâtiment. Moi, j'ai dit, si, moi, je l'avais déjà vu depuis 7 ans. On dit, comment tu avais vu ça? Oui, je l'avais vu parce que je savais que c'était ça dont on avait besoin. Vous voyez, des fois vous le savez, mais vous voulez rentrer vous-même dans certaines opportunités ou les créer, et là vous vous plantez parce que vous êtes là trop tôt. Et par contre, des fois tu attends trop et ça te passe sous le nez. Et là, tu as la tête basse en tant que leader. Parce que tu t'aperçois que tu es passé à côté d'une opportunité prophétique de Dieu. Alors Esther, c'est tout à fait le type de personne qui a su saisir le timing de Dieu. Alors, dans l'histoire d'Esther, en fait, il y a quatre personnages que vous allez découvrir. Quatre personnages. Bien sûr, il y a Esther qui va jouer un rôle, le rôle principal. Il y a aussi Mardoché. Mardoché, c'était son oncle. Esther était une orpheline. Mais Mardoché, il va être un instrument au travers d'Esther. L'histoire d'Esther, réellement, quand vous lisez l'histoire d'Esther, elle va utiliser la loi du bon timing. En fait, c'est surtout Mardoché, son oncle, qui avait senti les choses. Et en fait, grâce à cette femme, le peuple juif va éviter un génocide. Un génocide chez les juifs va être évité. Il y avait un certain Haman qui était proche du roi, qui voulait faire un coup aux juifs. En fait, il voulait faire assassiner tous les juifs de Perse. Ils étaient encore déportés, les juifs étaient encore déportés, mais ils avaient déjà plusieurs générations là-bas, et Esther était restée là-bas. Un certain nombre de juifs étaient revenus au pays, mais les Perses avaient envahi, donc c'était, quand vous étudiez la succession des royaumes en Mésopotamie, eh bien, vous verrez une succession de royaumes. D'abord, il y a eu les Babyloniens. Après, il y a eu les Mèdes et les Perses. Voilà, donc on est dans cette période-là avec les Mèdes et les Perses. Vous pourrez lire ça au travers du livre de Daniel. Je vous conseille fortement d'acheter une Bible avec des commentaires Scofield. Il y a beaucoup de choses historiques, etc. C'est une Bible pratique au niveau de l'étude qui vous permettra d'avoir pas mal de dates, etc. etc. Ça vous permet d'avoir pas mal de commentaires. Alors, donc Esther va se retrouver au milieu d'un roi perse et finalement, s'il vous plaît, vos téléphones. Et elle va se retrouver, en fait, nation étrangère. Il y avait tout le peuple juif qui était disséminé parmi les Perses. Et Haman voulait faire un sale coup. Bon, pour différentes raisons, parce que Mardoché n'avait pas voulu se prosterner devant lui, etc., etc. Et il voulait une revanche personnelle. Alors, en fait, les différents personnages que l'on va voir, c'est dans cette histoire, c'est bien sûr Esther qui va jouer le rôle principal. Il y a Mardoché, son oncle, qui va l'aider à entrer dans la loi du bon timing. Il y a Haman, l'ennemi, Haman avec un H, l'ennemi, qui va quoi faire? Qui veut absolument faire un génocide dans le peuple juif, donc l'instrument diabolique. Et il y a le roi qui va se faire manipuler. Mais après, il va revenir en arrière. Et l'histoire d'Esther, ça commence ni plus ni moins par quoi? Eh bien, d'abord, par la montée d'Esther. Et là, il y a des clés. Vous savez, souvent, pour être dans le moment divin, il y a certaines clés. Ici, Esther va monter d'abord, va saisir des opportunités au bon moment. Mais c'est surtout Mardoché qui va l'aider à lui faire saisir ces opportunités-là. Donc, elle va être d'abord au bon endroit. Elle va être au bon endroit, parce que ça, c'est important. Elle va être au bon endroit. Vous savez, Dieu, si vous lui obéissez, et si vraiment vous voulez marcher avec lui, va vous donner des rendez-vous divins, des rendez-vous prophétiques. Il va vous connecter avec des gens. Esther, elle était chez les ennemis, mais ils sont restés là, avec sa famille et avec tous les juifs. Elle était au bon endroit. Elle va être un instrument pour éviter ce génocide. Mais pour cela, il faut avoir un bon entourage. Elle avait un bon entourage aussi. Son bon entourage, c'était Mardoché. Mardoché, c'est son oncle qui va l'impulser. Vous savez, dans notre vie, parfois, on a besoin de gens qui nous donnent juste un petit coup de pouce, des fois, dans certaines décisions à prendre, au bon moment. Quelqu'un qui vous dit, non, maintenant, fais ça. Et tu es là, tu dis, oh, ok. Et tu le fais, et ce sont des gens qui, parfois, que Dieu te donne, qui sont des gens clés dans ta vie, et qui t'impulsent au bon moment, et tu vas prendre la bonne décision au bon moment, et tu es au bon endroit, et là, d'un seul coup, tu vas monter. Et ça, ces gens-là, il faut savoir les reconnaître. C'est pas toujours facile de les reconnaître. Et là, Esther avait quelqu'un de qualité qui était Mardoché. Mardoché voyait les choses. Et Mardoché s'est arrangé d'abord pour qu'elle soit présentée devant le roi. Donc elle a dû être dans la position. Ah, j'ai fait des enseignements là-dessus parce que les chrétiens ne comprennent pas grand-chose là-dessus. Mais Esther a été choisie comme la reine, la suite de la reine Vasthi. La reine Vasthi, c'était une reine qui a été mise en disgrâce aux yeux du roi Artaxerxès. C'est dur à dire, Artaxerxès. Ce roi de Perse, et ce roi de Perse, en fait, avait fait une grande fête, et il avait appelé la reine Vasthi. Et la reine Vasthi a dit, non, moi je n'irai pas à la fête du roi. Et le roi l'a su, il lui a dit, maintenant, écoute, tu vas tomber en disgrâce. Et le roi a voulu choisir une autre reine. Et Mardoché a saisi l'opportunité. Personne ne savait qu'Esther était juive. Et qu'est-ce qu'il va faire? Mardoché va dire à Esther, présente-toi. Le roi cherche une reine, tu es très belle, tu vas aller te présenter. Et le roi voit passer tout un tas de jeunes filles, et il voit Esther, et comme par hasard, entre guillemets, c'est elle qui est choisie. Donc elle va être proche du roi, par destinée. Proche du roi. Vous savez, les positions que nous avons dans la société sont des positions importantes. Au Burundi, nous avons évité que des Européens viennent nous faire passer, parce qu'ils voulaient donner de l'argent aux parlementaires. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Les parlementaires, on leur avait promis de l'argent, pas de la corruption, mais c'est quasiment de la corruption pour moi, mais enfin bon, c'était officiel. Les parlementaires européens, vous savez, l'homosexualité est quelque chose qui est réprimé au Burundi. C'est-à-dire que si quelqu'un est trouvé en train de faire de l'homosexualité, il est réprimé par la loi. Et les Européens ont vu ça parce que c'est un des rares pays où ça existe. Et en fait, ils ont dit aux parlementaires burundais, eh bien, on va vous donner de l'argent, mais il faut que vous votiez une loi. Imaginez-vous combien les démocraties aujourd'hui sont perverses. Aujourd'hui, les démocraties que vous voyez en Europe et en Amérique du Nord sont devenues perverses. Elles votent des lois du péché. Elles légalisent le péché. Et Dieu soit béni, nous avons un certain nombre de parlementaires chrétiens, des vrais chrétiens, d'autres des faux chrétiens, mais au moins cathos, des gens assez, bon, je dirais, qui ont une certaine morale. Et il y a eu une bataille entre les parlementaires. Mais nous avons eu suffisamment de parlementaires qui avaient des valeurs, qui ont dit non, même pour de l'argent, on ne va jamais faire ça dans ce pays. On ne va jamais accepter ce genre de truc. Et ils se sont tenus contre cela. Vous savez, nous devons avoir des chrétiens influents. Moi, j'ai autour de moi, je ne me sers pas de ça, ou très très rarement, mais j'ai beaucoup de chrétiens influents. Si j'ai un problème, j'ai toujours une personne clé pour résoudre mon problème. Parce que j'ai beaucoup de gens influents dans mon église. Beaucoup de gens influents dans mon église. Si j'ai quelque chose à dire, je vais voir certaines de ces personnes et leur dire, voyez, actuellement, faites attention parce qu'il y a ça et ça qui ne va pas. Il y a quelque temps, on a la ministre du commerce et de l'industrie dans notre église. Je lui ai parlé, j'ai parlé une heure et demie avec elle. Et je lui dis, tu sais, fais attention parce qu'on est en train de déraper dans l'inflation. Il y a des problèmes économiques que le gouvernement est en train de générer. Et on parlait simplement, c'est quelqu'un qui est très simple, c'est quelqu'un qui vraiment a donné sa vie à Jésus, quelqu'un qui a été formé à notre institut, quelqu'un qui est vraiment, vraiment très simple, que j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un qui s'assoit dans la foule. C'est pas quelqu'un qui dit, moi j'arrive, faites-moi de la place. Vous voyez, parce que ça je ne supporte pas. Je trouve ça vraiment, l'église de Dieu, nous sommes frères et sœurs en Christ. Mais vous voyez, quand vous avez des gens d'influence, vous pouvez leur parler et eux-mêmes vont faire des choses. Ils vont faire attention. Ça nous permet aussi de prier pour ces gens-là, pour que Dieu leur donne de l'intelligence, de la sagesse pour diriger, pour gouverner, pour préparer certaines choses, pour éviter certains pièges. Vous voyez ? Trop de chrétiens ne veulent pas avoir d'influence ou laissent l'influence à des païens. Esther, si elle n'avait pas eu de l'influence, elle n'aurait pas pu parler au roi. Parce que personne ne peut venir dans la présence du roi. Même elle, elle a risqué sa vie d'ailleurs. Nous devons créer une génération influente, frères et sœurs. Parce que si tu veux influencer ta nation, il faut que tu aies des gens clés dans ton église qui soient influents. Il faut que des gens qui soient dans le business. Il faut des gens qui soient dans des positions du gouvernement élevées. Et beaucoup, il en faut. Plus tu en as, plus tu vas pouvoir faire un bloc contre l'influence satanique, l'influence du monde. Maintenant, je ne dis pas que ces gens-là doivent à chaque fois qu'ils font un discours dire « Nous faisons le discours au nom de Jésus. » Parce que ça, c'est de la bêtise. Tu n'exerces pas ton métier au nom de Jésus. Tu exerces ton métier en tant qu'être humain avec les qualités que tu as. Parce que ça, c'est une grave bêtise de mélanger les choses spirituelles, tout le temps avec ce que tu es en train de faire. Il y a un mélange qui n'est pas... tu fais un pas, c'est le Seigneur qui t'a dit de faire un pas. Mais non, c'est toi qui as fait le pas. Il y a des gens, vraiment. Par contre, tu te laisses influencer. Dieu nous influence du monde invisible et nous mettons en place et nous influençons au travers du monde visible. Parce que nous avons un corps. Et nous sommes là dans différentes positions. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'influence. Mais bon, j'ai pas trop le temps d'aller loin avec ça, mais il y a vraiment beaucoup de choses que beaucoup de gens n'ont pas compris. Donc, elle était au bon endroit, elle avait le bon entourage, elle était dans la bonne position, et maintenant, il y avait le bon plan. Le bon plan, c'était quoi? Le bon plan, c'était que Esther, au moment opportun, lorsque Haman a fait promulguer une loi à l'insu de la vraie compréhension du roi, Haman a réussi à faire... à promulguer une loi que tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant le roi et devant lui, etc., seraient mis à mort. Et le roi ne pouvait pas changer ça parce qu'il avait mis son sceau. Il s'était fait avoir, il ne savait pas que ça concernait le peuple juif, dont la reine Esther. Et la reine Esther, à un moment opportun, Haman lui a dit, il faut que tu ailles le voir. Il faut que tu ailles voir le roi et lui parler de cette histoire-là. Et Esther était réticente, elle m'a dit, oui, mais ça fait un mois que le roi ne m'a pas appelé. Et tu ne pouvais pas aller vers le roi, si le roi ne t'avait pas appelé, tu risquais la mort. C'est ce que la Bible nous dit. Vous savez, ces souverains, ils étaient un peu bizarres des fois. Ils avaient droit de vie et de mort sur n'importe qui. Et en fait, Esther va sentir et hésiter au départ. Et Mardoché lui dit, tu sais, si tu n'agis pas maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Toi aussi, tu vas mourir, parce que tu es juive aussi. Parce que toi aussi, tu es juif. Donc, si tu n'agis pas, toi aussi, tu vas passer à la casserole, comme nous. Toi aussi, tu vas te faire tuer. Et là, Esther s'est repris. Et elle a foncé au bon moment, juste avant qu'on commence à massacrer les juifs. Elle a été devant le roi, et elle lui a montré qu'elle allait mourir. Et le roi a dit, quoi, tu vas mourir, toi? Mais pourquoi? Oui, parce que mon peuple est menacé. Et c'est à cause de cet homme-là, Haman. Et là, Haman va se faire coincer. Le roi ne pouvait pas changer la loi. Par contre, il a promulgué une autre loi. Il a dit que les juifs ont le droit de se défendre si n'importe qui vient les attaquer. C'était intelligent. Donc personne n'est venu attaquer les juifs. Et grâce à Esther, au moment où il y avait le bon plan, elle était dans la bonne position, mais elle a dû agir au bon moment. Si elle avait agi trop tard, elle serait morte. Et il y aurait eu un génocide. Imaginez-vous quelqu'un, de par la loi du bon timing, parce qu'elle est en position... peut réussir à éviter un génocide. Influence, mais aussi action au bon moment. La loi du bon timing. Donc Esther, il faut vraiment lire cette histoire comme ça. Il y a d'autres trucs qui ne sont pas géniaux dans Esther, il faut le dire. Le fait que le roi se permettait d'avoir toutes ses femmes et ses histoires, enfin il y avait tout un tas d'histoires, le droit de vie et de mort. Mais il y a une leçon, il y a une leçon du bon timing. Troisième grand principe, quand un leader ne saisit pas le bon moment, quand un leader ne saisit pas le bon moment, il mine le terrain de son leadership. Quand un leader ne saisit pas le bon moment, il mine le terrain de son leadership. C'est-à-dire qu'il va coincer le terrain de son leadership, il va complètement limiter. Donc si tu ne sais pas prendre les bonnes initiatives au bon moment, tu vas te limiter complètement. Quand tu ne sais pas reconnaître les opportunités prophétiques divines que Dieu te donne, tu vas... te retrouver bloqué. Et souvent, un leader ne prend pas les initiatives au bon moment. Pourquoi? Parce qu'il a peur, donc la crainte. Pourquoi est-ce qu'un leader ne prend pas les bonnes initiatives? Souvent. Parce qu'il a peur, parce qu'il est orgueilleux. Donc souvent, tu ne prends pas les initiatives parce que tu as peur, donc tu manques de foi. Parce qu'il y a de l'orgueil en toi. Parce que tu as des motifs personnels. Donc par motif personnel, crainte, orgueil, motif personnel. Motif personnel, priorité mal placée, c'est-à-dire que tu es en train de bosser, tu es focalisé sur quelque chose, tu passes tout ton temps là-dedans alors qu'il y a d'autres priorités et il y a des moments prophétiques dans lesquels tu dois plonger. Donc priorité mal placée, manque de discernement aussi d'une situation, manque de discernement ou encore manque d'attention. Tu ne fais pas attention, tu as la tête en l'air et tu ne fais pas gaffe. Et il y a des choses qui te passent sous le nez, et d'un seul coup, tu vois un autre leader le faire, et ouf, il va tout là-haut. Tu dis, mais mince, pourquoi j'ai pas vu ça? Ben oui, tu ne l'as pas vu parce que tu étais en train de penser à autre chose. Voilà, tout simplement, tu n'as pas fait attention. Alors, quand nous ne saisissons pas les bons moments, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui arrive à un leader quand il ne saisit pas les bons moments. Quand il ne saisit pas les bons moments, qu'est-ce qui se passe pour un leader? Il y a quatre choses classiques que l'on voit. Quatre choses classiques quand on ne sait pas saisir les bonnes opportunités au bon moment. D'abord, vous allez vous retrouver parmi la foule. Vous allez vous retrouver parmi les autres, les leaders qui finalement n'avancent pas. Le groupe de ceux qui sont dans l'échec, très souvent, la foule, entre guillemets. C'est-à-dire les gens qui... Ben voilà. Et tu subiras plein de choses que les autres subissent. C'est-à-dire tu subis les circonstances au lieu de transformer les situations. Numéro 2, Dieu vous remplacera par quelqu'un d'autre. Ah ah. Vous savez, Dieu ne fonctionne pas avec les besoins, mais il fonctionne avec les cœurs. Dieu te remplacera par quelqu'un d'autre. Et ça, il y a des leaders qui grognent parfois. Parce qu'il y a des leaders, vous savez, qui aiment être numéro un dans un endroit, dans une ville, dans une nation. L'homme du moment. Vous savez, il y a des gens qui fonctionnent sur ce genre de truc-là. Ça, c'est de la stupidité en leadership. Mais bon, il y a des gens qui sont comme ça. Parce qu'ils veulent être celui qui montre que c'est par lui que tout se passe. Oui, mais fais attention à ce genre d'attitude. Parce que des fois, tu vas louper des opportunités. Et tu vas te retrouver deuxième, troisième, xème ou dixième. Et là, tu vas en prendre un sacré coup pour ton orgueil. Et souvent, il y a des leaders qui sont comme ça. Dieu les avait bien placés à un bon moment. Et ils ont commencé à disjoncter. Ils se sont dit, maintenant, plus besoin de faire attention à quoi que ce soit. Maintenant, je suis ce que je suis, entre guillemets. Il y a des gens, tristement, qui sont orgueilleux. Vraiment, c'est triste à dire. Mais des gens qui réussissent, parfois, ça leur monte tellement à la tête. Tellement à la tête. Vous savez, le succès, parfois, monte tellement à la tête des leaders qui, d'un seul coup, ils sont complètement transformés par leur succès. Si le succès te transforme, c'est que tu as un sacré problème, mon frère. C'est comme si l'argent te transforme, tu as un sacré problème aussi. Si des gens de mauvaise vie te transforment, c'est vraiment, tu as de sacrés problèmes dans ta vie. Ce n'est pas ces choses-là qui doivent, ou ces gens-là qui doivent te transformer. Celui qui doit te transformer, c'est le Seigneur et ceux que Dieu met à côté de toi, ou ceux qui vont t'influencer correctement. Ça, tu te laisses transformer par ces gens-là. Mais il y a des leaders comme ça, qui se retrouvent, au début, vraiment Dieu les utilisait, ils faisaient vraiment un excellent boulot, et après ils ont loupé des opportunités, et ils se sont retrouvés, reclassés, et quelqu'un d'autre, d'un seul coup, a émergé, un autre leader a émergé, et Dieu a fait le boulot, parce que les gens avaient un cœur qui était ouvert pour recevoir ce genre de choses. Ensuite, troisième chose, c'est que vous pourrez, si vous avez loupé une opportunité, vous pourrez louper d'autres opportunités. Si vous avez loupé une opportunité, ça veut dire que vous êtes ouvert pour louper les autres. Donc là, il faut faire attention. Parce qu'en leadership, le risque de rater est plus petit que celui de ne rien faire. Notez ça, en leadership, le risque de rater est plus petit que celui de ne rien faire. Il y a des moments où il faut que tu fonces. Il y a des risques. Mais si tu ne fais rien, le risque est plus grand. Tu ne bougeras pas et Dieu suscitera d'autres gens. Numéro 4, vous pourrez passer à côté de votre destinée ou de la mission de votre vie, de votre destinée. Numéro 4, vous pourrez passer à côté de la mission de votre destinée. Si Esther n'avait jamais été reine, elle serait morte. Parce qu'elle n'aurait jamais eu l'opportunité de pouvoir parler au roi et de sauver son peuple. Vous voyez? Donc rappelez-vous, en leadership, il n'y a pas de risque zéro. Il y a toujours des risques. Et il faut bien sûr que tu saches, que tu connaisses comment le bon timing fonctionne. Quand tu connais cela, après, tu commences à prendre de l'assurance. Parce que c'est clair qu'au départ, c'est un peu effrayant. Parce que tu vas passer d'une dimension à une autre, très rapidement, et parfois c'est un peu effrayant pour un leader. Mais il n'y a pas de risque zéro. Maintenant, attention de ne pas se mettre dans la présomption, je vous le rappelle. La présomption, c'est de commencer à déclarer des choses qui sont complètement en dehors de ta portée et dont Dieu ne t'a jamais parlé précisément dans les temps présents. Parce que des fois, il y a des leaders, vous savez, qui commencent à perdre un peu de... Ils commencent à perdre un peu d'influence. Et comme ils voient qu'ils perdent un peu d'influence, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de mettre le peuple, alors qu'ils ont fait peut-être des erreurs ou parce qu'ils sont en train de tourner en rond et que le peuple tourne en rond, l'influence diminue et ils s'en aperçoivent. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commencer à faire des super grandes déclarations et à essayer d'amener le peuple de Dieu dans une direction. Une direction que Dieu ne leur a pas donnée à ce moment-là. Et là, ils se plantent. Et gravement. Et j'en ai vu certains faire ça. Il y a des gens qui ont quasiment tout perdu après. Ils n'ont pas saisi la bonne opportunité au bon moment. Et en fait, ils essayaient de faire aller le peuple. Donc les gens qui les suivaient, et particulièrement des pasteurs, qui étaient là en disant, ils voyaient qu'ils commençaient à perdre des gens, ils voyaient qu'il y avait d'autres leaders qui commençaient à émerger, qu'ils ont essayé d'ailleurs d'écraser, mais ça n'a pas marché. Et d'un seul coup, ils commencent à se sentir insécures, donc ils disent aux gens, écoutez, dans un an, nous ferons ceci, ou dans 6 mois, nous serons là, etc. Nous avons besoin de tel budget, mais vous en faites pas, Dieu va pourvoir, etc., etc. Et jamais ça se produit. Et les gens ont commencé à donner, les gens ont commencé à aller dans une direction. Et le gars, c'était pas divin, c'était charnel. C'est parce qu'en fait, il s'aperçoit que les gens commencent à dire « Ah, il y a tel autre pasteur, il a fait ça, tel autre pasteur a fait ça. » Et vous savez, nous, les pasteurs, on reçoit beaucoup d'informations comme ça. « Ah, pasteur, pourquoi tu fais pas ça? Tu vois, tel autre pasteur a fait ça, ça a bien marché, blablabla, blablabla, blablabla. Et puis, il y a des gens qui ont quitté l'église, qui sont là-bas parce que blablabla. » Vous voyez? Et d'un seul coup, le leader se sent insécure. Et qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de provoquer des événements par la chair. Et là, ça peut être dangereux. Donc je ne parle pas de ça. Quand je parle de la loi du bon timing, c'est vraiment, vous êtes là, vous êtes en bonne position, vous savez ce que vous devez faire, mais il y a un moment où vous êtes sensible à ce que le Saint-Esprit va vous dire au moment où vous devez le faire. Et là, vous plongez dans l'opportunité prophétique. Et là, ça va marcher. Mais sinon, ça ne marchera pas. Donc, il y a des risques, même dans ces temps-là, parce que tu vas annoncer des choses qui vont même des fois, parfois, dépasser ta foi. Il faut le dire. Mais tu as déjà une semence de foi et Dieu va venir te rencontrer là où il y a ta semence de foi. Et d'un seul coup, te propulser beaucoup plus haut et te faire réussir des choses que d'autres n'auront pas encore réussi parce que tu auras su utiliser la loi du bon timing. La loi du bon timing est quelque chose de très important. Quatrième grand principe. Il y a une bonne saison pour toute chose. C'est l'Ecclésiaste 3.1 qui nous dit ça. Il y a un temps pour toute chose. Il y a une bonne saison pour toute chose. Donc Ecclésiaste 3, verset 1, c'est ce que l'Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour toute chose. Et en fait, souvent les leaders font cette erreur-là. Ils sont déphasés par rapport aux saisons dans lesquelles ils devraient faire les choses. Et là aussi, il y a des moments, vous savez, par exemple dans une église locale, il y a des moments où tu fais de l'évangélisation. Mais il y a des moments aussi, il y a des saisons où tu vas enseigner les gens pour les faire grandir. Tu ne peux pas tout faire en même temps constamment. C'est très difficile à gérer ça. Il y a des saisons où tu vas insister plus sur les finances. Il y a des saisons où tu vas insister plus sur la vie de l'esprit. Il y a différentes saisons. Il y a des saisons où tu vas préparer des leaders. Tu ne peux pas tout faire en même temps. Tu es un homme, tu ne peux pas faire tout en même temps. C'est pas possible. En tout cas, en qualité. Bien sûr, tu peux faire tourner plein de machines en même temps et pas t'en occuper. Parce que tu es humain, tu es limité quelque part. Et souvent, quand il y a des choses à faire, que le leader doit prendre des décisions pour amener dans une certaine dimension l'église de Dieu ou une société ou quoi que ce soit, il y a des moments clés. Tu dois surtout ne pas être déphasé. Il y a trop de gens qui sont déphasés. Alors les saisons, c'est quelque chose sur lequel on pourrait beaucoup parler. Je vais essayer d'être assez court, mais ce n'est pas facile. Par exemple, Esther, si elle avait révélé son arrière-plan juif avant d'être reine, elle aurait été disqualifiée. Vous voyez ? Donc il y a des choses que tu fais à certains moments, que tu dois faire par rapport à certaines saisons. Elle a révélé son identité juive le jour où son peuple était menacé. C'est là où, directement, elle a dit, « Mais moi, je vais mourir. » Elle dit ça au roi. « Quoi ? Tu vas mourir ? Mais qui va te tuer ? Pourquoi tu vas mourir ?» Et le roi, d'un seul coup, ça l'a provoqué quelque part. Vous voyez ? Alors que si elle avait raconté qu'elle était juive avant même d'être en compétition avec les autres pour devenir reine, elle ne serait jamais devenue reine parce qu'il y a des gens qui auraient dit « Mais tu vas pas prendre une reine qui n'est pas de notre peuple. » Vous voyez ? Et ce qui se passe souvent, c'est que les saisons, nous avons du mal à les déterminer. Alors rapidement, les saisons, les caractéristiques des saisons. D'abord, les saisons n'ont pas toutes la même longueur. Ensuite, chaque saison a un commencement et une fin. Donc, elles n'ont pas toutes la même longueur. Elles ont toutes un commencement et une fin. On peut ensemencer à différents endroits en même temps. Mais ne pas moissonner en même temps. partout en même temps. On peut ensemencer dans différents endroits en même temps, mais ne pas moissonner partout en même temps. Ça veut dire qu'il y a des moments où tu vas te focaliser sur quelque chose qui ne va pas produire tout de suite, d'autres choses qui vont produire rapidement et d'autres choses encore qui produiront à un temps différent. Ça, c'est pas grave. Il faut que tu le saches, simplement. Ensuite, notez que chaque saison doit être gérée correctement pour produire le plus. Chaque saison doit être gérée correctement pour produire le plus. Alors, il y a 4 saisons dans la vie d'un leader. 4 saisons dans la vie d'un leader. La première, c'est l'hiver. L'hiver, vous savez qu'il fait très froid. Il n'y a rien qui pousse. C'est là où les gens s'enferment. Vous avez tous vu des films à droite et à gauche où il y a de la neige partout, où il y a du froid partout, et les gens restent confinés dans leur maison. Ils sortent très peu, juste pour le minimum. Aller au boulot, revenir à la maison, faire quelques trucs, faire les courses, mais c'est tout. Ils ne sont pas là en train de jouer au ballon dans la neige. C'est difficile. Il fait trop froid. Et souvent, vous savez, pour les leaders sans avenir, quand c'est l'hiver, eux, ils attendent. Ils attendent que la saison passe, entre guillemets. Par contre, le leader qui va être productif, c'est son temps où il travaille sa vision. Il y a un temps où tu dois travailler ta vision. Tu réfléchis aux stratégies, tu te prépares. Parce que tu sais que cette saison ne sera pas pour tout le temps. C'est la saison où Dieu va te parler. C'est la saison où tu dois préparer tes stratégies. Parce que tu sais que tu vas bientôt démarrer et tu veux démarrer en ayant un plan. En ayant déjà quelque chose, entre guillemets, sur le papier. En ayant déjà fait les premiers contacts, etc., etc., etc. Ensuite, deuxième saison, c'est le printemps. Le printemps, c'est la saison pour semer. C'est là où tu vas payer le prix le plus fort. C'est la saison pour semer au printemps. Tu as retourné la terre et tu sèmes. Là, tu sais que tu vas payer le prix pour le succès à venir. Je rappelle que le succès ici, c'est selon Dieu, ce n'est pas pour toi. Qu'on soit bien d'accord. Donc tu vas payer le prix dans cette saison-là, pour quoi faire? Pour le succès à venir. Donc tu sais que là, il faut semer. Mais pour l'instant, c'est loin d'être le temps de la récolte. Tu es là, tu partages les choses que tu as, tu partages la parole de Dieu, tu partages la vision, etc., etc. Les gens commencent à bouger un petit peu, mais ça ne bouge pas encore beaucoup. Et là, tu bosses dur, tu souffres, c'est les moments de souffrance, c'est les moments difficiles. Mais peu importe, en tout cas c'est le début des souffrances. Ensuite il y a l'été. L'été c'est la saison pour travailler dur. C'est la saison pour travailler dur. Pour celui qui va échouer, c'est le temps des vacances. Parce qu'il fait beau. Donc on en profite pour rien faire. Par contre pour le leader qui est productif, lui c'est une saison où il va bosser dur. Le soleil va brûler, mais peu importe. Il est là, il bosse parce que lui, il a la vision de quoi? La moisson. Donc il est là en train de bosser encore dur. Il a semé pendant le printemps, mais là, pendant l'été, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bosser tout ce qu'il peut pour être le plus productif possible, pour être sûr d'avoir une excellente moisson. Et tout leader sait que ce qu'il va moissonner, c'est là où il aura bossé, surtout pendant l'été. Ensuite, il y a l'automne. L'automne, c'est la saison de la production. L'automne, c'est la saison de la production. Alors, les leaders qui échouent, ce sont ceux qui se plaignent des résultats. Et ils se plaignent des résultats parce qu'ils n'ont pas bossé, c'est tout. Mais ils ne diront jamais « parce que je n'ai pas bossé ». Ils diront « ça ne marche pas, rien ne va », etc., etc. Vous voyez, en fait, ils se donnent, ces gens-là, à l'automne, alors qu'ils voient les autres réussir, ils se donnent des excuses pour leurs échecs. Le leader qui se donne des excuses pour son échec, ce n'est pas un leader qui a transformé sa mentalité selon Dieu. C'est quelqu'un qui, tout le temps, dit en fait que Dieu fait ceci, Dieu va faire cela, que demain sera meilleur, mais qui est incapable d'amener le meilleur pour son peuple. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui veut bosser, ce n'est pas quelqu'un qui est stratégique d'abord, ce n'est pas quelqu'un qui veut semer et payer le prix, ce n'est pas quelqu'un qui veut bosser dur. Parce que si vous voulez réussir en leadership, il va falloir travailler dur. Si vous avez un appel de pasteur, il va falloir que vous bossiez dur, il va falloir que vous mettiez dans vos têtes et dans vos mentalités le mot « travail ». Les gens qui ne veulent pas bosser ne peuvent pas réussir. Ça, c'est clair. Maintenant, nous savons qu'il faut travailler intelligemment. Nous le savons, nous l'avons vu. Mais il y a tellement de gens qui s'imaginent que le ministère, c'est le repos. Ils ont tort. Ils ont tort. Et d'ailleurs, les leaders qui sont un peu... Certains, vous savez, leaders sont victimes de certains succès. Parce que certains... Moi, je connais, par exemple, certains leaders, il y a des années, ils étaient là, bon, au bon moment, les gens se convertissaient quasiment... Ils avaient soif, quoi. Pof, ils venaient. Et puis, c'était quasiment les seules églises qui existaient. Donc, les gens sont venus dans leur église. Mais quand il s'agit de bosser, ces gens-là, aujourd'hui, ont des difficultés de plus en plus. Parce qu'ils n'ont pas bossé dur pendant toutes ces années. Ils n'ont pas implanté quelque chose pendant toutes les années où Dieu leur avait fait une faveur exceptionnelle. Je vous assure, parfois on voit des pasteurs, c'est incroyable. Ils sont là, ils sont juste au début de quelque chose et tout le monde va vers eux parce qu'il n'y a rien d'autre à côté. Sauf que le jour où il y a quelque chose à côté, est-ce que les gens vont rester chez toi? Parce que est-ce que tu as suffisamment investi chez eux pour qu'ils s'attachent réellement à ton leadership? Est-ce que tu as amené une parole, une onction et un caractère qui les a complètement transformés? Par la grâce de Dieu. Si tu n'as pas fait ça, qu'un leader plus fort arrive un peu plus tard, il va drainer tous tes gens. Et vous savez, des fois, malheureusement, il y a des leaders qui sont plus forts et qui sont très tacticiens pour aller piquer les brebis des autres. Ça, c'est triste. Et ça, c'est mauvais, d'ailleurs. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'être sous ton leadership. Par contre, en tant que leader, tu ne dois jamais dire aux gens « quitte ton église pour venir chez moi ». Moi, jamais je ne fais ça et jamais je ne ferai ça. Si quelqu'un vient me voir pour me dire « Pasteur, je veux faire partie de votre église », je lui dis « Mon frère, je peux t'accepter, mais sache une chose. D'abord, je ne suis pas parfait, ma femme n'est pas parfaite non plus. Nous avons nos qualités, nous avons nos défauts. Ce n'est pas une église parfaite dans laquelle tu vas entrer. » « Oui, mais... » Je dis « Ok. » Entre guillemets, je lui dis « Calme ta joie. » Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'il soit désillusionné au bout de 6 mois. Et j'ai dit clairement « Ce n'est pas moi et ne dis jamais que c'est moi qui est venu vers toi pour t'attirer dans mon église. Si tu changes et si tu crois que Dieu te dit que tu dois être dans mon église, tu es le bienvenu, je vais m'occuper de toi, mais ce n'est pas moi qui vais te débaucher de ton église ou essayer de te faire croire certaines choses en parlant sur le dos de ton pasteur, en le critiquant ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, les gens qui viennent à moi comme ça et qui commencent à raconter tout un tas de trucs sur leur pasteur, je dis, mon cher ami, je pense qu'il serait mieux que vous régliez les problèmes avec votre pasteur. Parce que je n'ai pas envie qu'après vous veniez me critiquer comme vous êtes en train de critiquer votre pasteur. Vous voyez ce que je veux dire? Faire attention avec ça. Vous savez, nous les serviteurs de Dieu, nous devons être éthiques. C'est-à-dire avoir des qualités en faisant attention. Maintenant, il faut savoir des fois dire certaines choses d'une certaine manière. Non pas pour détruire, mais pour prévenir. Parce que parfois en tant que serviteurs de Dieu, nous devons parler de nos relations ou de certaines choses que nous avons vécues sans en parler d'une façon blessante. Ou parce qu'on est blessé, mais dire, tu sais, fais gaffe, parce que peut-être que lui ou elle pourra t'amener des ennuis. Ça, ce n'est pas anti-biblique. C'est se protéger les uns les autres. Ce n'est pas la même chose. Vous voyez la différence? Mais il faut faire attention, parce qu'il y a vraiment des gens parfois dans le leadership qui se trompent très, très sérieusement et qui se plaignent finalement que les autres réussissent mieux qu'eux. Alors qu'au départ, ils avaient moins de chances de réussir. Mais quelqu'un qui va travailler dur et qui est vraiment dans sa destinée divine, il va réussir, il va percer. C'est normal. Et toi, si tu as percé parce que tu étais peut-être dans des temps où les gens venaient très facilement. Vous voyez, par exemple, l'église d'Antioche. Si vous les étudiez, l'église d'Antioche, vous découvrirez que cette église n'a pas été formée par un serviteur de Dieu. Vous découvrirez que cette église est née de par elle-même au travers des témoignages de gens, de chrétiens qui n'étaient pas dans le ministère, qui étaient persécutés. Et d'un seul coup, il y a une masse de gens qui s'est convertie à Antioche et Dieu a envoyé des serviteurs. Mais ni Paul, ni Barnabas, ni tous ceux qui étaient là n'ont fondé cette église au départ. Ils l'ont stabilisée. Ils ont stabilisé l'église. Ils ont vraiment enraciné l'église après, avec leur ministère. Mais ce n'est pas eux qui ont fondé cette église. Vous voyez? Donc des fois, dans le christianisme, on se retrouve avec certaines églises. Parfois, ça arrive. Moi, j'ai vu des cas comme ça. Des fois, je me dis quand même, Seigneur, c'est dur. Parce que il y a des gens, ils arrivent, ils rentrent dans les chaussures, entre guillemets, et tout va bien, c'est leur pointure. Il y a déjà plein de gens qui les attendent. Et puis, il y en a d'autres, ils bossent dur. Ils bossent dur pour en arriver là où d'autres ont juste claqué des doigts parce qu'ils étaient juste là à ce moment-là. Mais ceux-là, par contre, vous voyez, ils vont avoir un problème, c'est que souvent ils ne connaissent pas la valeur au travail, vraiment. Ils ne connaissent pas le bon timing, ils n'ont pas l'habitude de bosser dur, parce que finalement, ils sont arrivés juste là et Dieu a trouvé qu'il y avait quelques serviteurs là et directement, il leur a confié une œuvre, vous voyez. Et parfois ça arrive, c'est ce genre de choses. C'est assez rare, mais ça arrive. Vous savez, il y a différentes choses dans l'Église de Dieu. Nous verrons les deux dernières lois, oui c'est ça, les deux dernières lois. La 20e, la croissance explosive, nous verrons ça tout à l'heure. Et puis nous verrons aussi, après la croissance explosive, nous verrons la loi de la succession.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.